Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kero.
Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Bonsoir à tous les amis, 18h03, ravi de vous accueillir. Vous êtes dans Team Dugas, ça y est, c'est jusqu'à 20h, nous allons nous régaler à débattre, à parler football. Une grosse, très très grosse actualité, une nouvelle fois dans le football. Nous accueillons Coach Courbis pour en parler avec nous. Bonsoir Roland, comment vas-tu?
Salut, salut à tous, ben ça va, écoute.
Bon, bienvenue Roland.
Moi aussi
Roland.
J'écoute toutes les nouveaux. Ah ouais,
c'est fou,
là.
Moi, il y a deux matchs, plus il y a deux actualités. C'est fou quand même. Ça s'arrête jamais ce football, c'est un puits sans fond. Jean-Louis Tour est avec nous également. Bonsoir, mon Jean-Louis.
Salut, du gars, salut tout le monde.
Ça va, l'ami?
Bah oui, très bien, écoute. Hein. Bon, effectivement, gros programme avec des grosses infos
oui.
RMC Sport à venir.
Ah oui, ouais, ouais. Des surprises, des vraies surprises. Il y en a qui se lâchent.
C'est ça.
Et moi, le premier.
Oui, bon, on va y revenir. Et avec nous?
Francky Leboeuf est avec nous aussi également. Bonsoir mon Francky.
Bonsoir.
Comment ça va,
tout le monde? Ben, ça va très très bien, toujours très heureux d'être là.
Bon, magnifique.
On avait oublié son petit Francky là?
Si, j'avais oublié, j'étais parti sur autre chose pour tout te dire.
Alors très bien.
Ouais, je t'en veux pas.
Je voulais garder le meilleur pour la fin, mais j'ai tellement gardé que je l'ai oublié.
Ça arrive souvent. On y va donc pour Team Dugas avec, messieurs, un règlement de compte à Gaston Gérard à 19h. Gaston Gérard, c'est le stade de Dijon où Grégory Coupé s'est expliqué quant à son départ de l'Olympique Lyonnais. Il n'a pas été tendre avec son club historique. L'OL s'est-il mal comporté dans cette affaire? Le débat à 19h. À 19h30, le débat historique de Team Dugas aujourd'hui. Mitroglou Dugas, le temps t'a donné raison sur Mitroglou, on y reviendra. Il nous a beaucoup fait parler à son arrivée à Marseille et on y reviendra tout à l'heure à 19h30. On va aussi parler de Nice tout à l'heure, peut-être le modèle à suivre, et puis l'affiche du soir en Angleterre, c'est Manchester City Liverpool. On va y revenir également dans un instant, mais d'abord Dugas, on va revenir sur ce qui s'est passé hier dans notre débat autour des difficultés d'Antoine Griezmann pour s'imposer au Barça, un club où Lionel Messi contrôle tout. Ce débat a été animé, comme souvent dans Team Dugas, et tu as eu une parole que tu regrettes.
Oui, effectivement, sur les autistes notamment, où j'ai dit que Lionel Messi était à moitié autiste, à aucun moment je n'ai voulu stigmatiser ni me moquer des personnes souffrantes de ces troubles autistique, c'était pas mon intention, donc c'est pour ça que je voulais présenter mes excuses à ceux que ça a pu heurter. Après, pour être totalement franc aussi, s'il y a des gens que ça a choqué, je leur présente mes excuses, c'est normal, parce que mes intentions n'étaient pas là de les blesser, mais je vois pas en quoi ce que j'ai pu dire non plus est si grave que ça. Enfin, surtout, à quel moment j'ai pu me moquer ou insulter les gens autistes dans les propos que j'ai pu tenir? Quand je dis que Messi est à moitié autiste, ça veut dire tout simplement que c'est un garçon très réservé, qui est souvent isolé, pas toujours concerné.
Oui, mais voilà, t'aurais pu le dire comme ça, en fait.
J'aurais pu
utiliser le mot autiste, qui peut être vexant pour des gens malades ou des familles qui ont des enfants malades touchés par cette
maladie.
D'accord,
mais après, je vois pas en quoi aussi, mon Jean-Louis, ça peut être vexant. La preuve que si, parce que ça a touché des gens.
On peut dire aussi, quand malheureusement tu es autiste, c'est quand même une difficulté, même si aujourd'hui j'en ai connu, moi je le trouve très très bien. Tu peux te dire aussi que tu peux être autiste et être Messi, donc ça ne t'empêche pas d'être le meilleur footballeur du monde. Donc ça dépend dans quel sens on le prend. Alors, c'est vrai que je comprends aussi que ça puisse vexer, mais bon, on est dans une période aussi que si malheureusement on fait un petit écart de langage, je peux te dire que il y a beaucoup de gens parfaits que nous ne sommes pas. Donc voilà, donc tu as fait un écart de langage.
Après voilà,
beaucoup de personnes auraient pu faire sans pour autant atteindre les autistes.
Ça a été beaucoup repris. Là, tu t'excuses pour ce mot employé.
Je trouve ça assez incroyable des proportions que les choses ont pu prendre sur. On est là aussi pour caricaturer par moment dans l'humour parfois aller un peu loin. Enfin voilà.
Oui, Olivier Dugas, ça permet peut-être d'enchaîner parce que pour moi il y a deux raisons pour lesquelles tout ça a été repris. Il y a effectivement l'emploi du mot autiste, on s'est excusé, tu viens de le faire à l'instant, ouais. Et il y a autre chose quand même, c'est ce que tu dis sur le fond concernant Lionel Messi. On peut peut-être prendre une minute pour que tu reprécises ta pensée, parce qu'évidemment c'est surtout sur les réseaux sociaux que c'est parti dans tous les sens, notamment en reprenant cette petite phrase où en fait dans notre débat hier tu as invité Griezmann à prendre son courage en main, à se bouger et à aller demander des comptes à Lionel Messi. C'était surtout ça ton point de vue.
Oui, c'était ça. En gros, c'était, il fait pas 1m90, c'est pas une grande gueule, c'est pas un mec. Enfin voilà, au bout d'un moment, c'est à toi d'aller régler tes problèmes quand t'as un problème avec un garçon, que ce soit Messi, Pierre, Paul ou Jacques. Au bout d'un moment, il faut savoir se prendre en main.
Ça fait partie du haut niveau des grands clubs.
Ça fait partie quand il y en a un qui te crée des problèmes, d'y aller. Après, je te dis sur Messi, bon, dire qu'il fait 1m50, excuse-moi, c'est il fait 1m60. Voilà, c'est une expression. C'est un garçon qui est parfois peu très. Enfin, qui est très réservé, qui est souvent isolé, pas toujours concerné, voilà, qui a parfois des attitudes un peu d'enfant gâté. Voilà, je vois pas ce que j'ai dit.
Oui, et ça n'enlève rien à ses qualités de footballeur.
Exactement, on adore tous Messi, on adore tous, c'est un joueur exceptionnel, mais il y a des moments, Messi, comme les autres, il a des attitudes et des comportements qu'il a eu avec certains de ses coéquipiers qui méritent d'être condamnés, d'être parfois même stigmatisés. C'est comme ça, enfin, je trouve que ça a pris des proportions, sincèrement.
Mais tu
je sais pas
sais
si c'est moi qui est choqué des gens, ou si qui suis le plus choqué de voir
la disproportion. Ouais.
Non, mais la disproportion Alors, sur des trucs comme ça.
Ce que je vous propose, c'est qu'on n'aille pas plus loin sur ce dossier. Les excuses ont été présentées. T'as précisé ta pensée sur le dossier. On va pas aller plus loin. On va enchaîner avec ce qui fait vraiment Team Dugas, les infos, le débat. Et vous, au 32-16, on va vous donner la parole sur tous les sujets qu'on a à aborder. Avant City Liverpool, une info RMC Sport. Mohamed Bouassi nous rejoint. Bonsoir Mohamed.
Salut Roland, salut Jean-Louis, salut Francky, salut.
Salut Mohamed.
Ça se précise. À Bordeaux, ça bouge, notamment concernant l'entraîneur Paulo Sousa.
Oui, c'est une information RMC Sport. Il y a quelques heures, Paulo Sousa a annoncé son départ à ses joueurs. Il a souhaité échanger avec tout l'effectif des Girondins de Bordeaux en expliquant qu'il était trop fatigué par ce projet, trop fatigué par les changements de cap, trop fatigué aussi par le fait qu'il ne puisse pas recruter comme il le souhaite et qu'il sent que ça va être une saison réellement galère et qu'il n'a pas envie de participer à cette faiblesse sportive et à la faiblesse de la compétitivité des Girondins de Bordeaux. Donc il a dit à ses joueurs qu'il voulait partir et qu'il allait partir. Il y a des négociations qui vont démarrer entre lui et les Girondins de Bordeaux.
Encore ?
Oui, pour son départ.
Les mecs, ils veulent partir, ils veulent des sous.
Bon, après, il va peut-être démissionner entre-temps. Certains commencent à dire aussi qu'il y a Benfica qui s'est libéré au Portugal et que voilà, lui est attaché à ce club. Donc, on va voir la situation dans quelques heures. En tout cas, l'information principale et l'information RMC Sport, c'est que Paulo Sousa, l'entraîneur des Girondins, le dernier maillon fort, j'ai envie de dire, du projet sportif, a annoncé son départ aux joueurs.
C'est pas très étonnant vu tout ce qu'on dit autour du club, du gars, depuis quelques semaines.
Rien n'est clair, mon Jean-Louis. Depuis le début que King Street a racheté le club, rien n'est clair dans le projet.
Et j'espère que le plus dur ne soit pas à venir.
Voilà, je veux pas dire tout est fake, mais il y a tellement eu de contre-vérités. Ils devaient arriver avec mettre 80 millions qu'ils ont jamais mis, ils devaient investir. Tout a été fait en dépit du bon sens. On l'a dénoncé ces dernières semaines, ces derniers mois avec des gens chargés du recrutement ou des entraîneurs qui prenaient des commissions. C'est à l'envers d'un mode de fonctionnement d'un club de football. C'est surréaliste ce qui se passe dans ce club, mais monsieur Longuepé a dit il y a aucun risque, le club, tout va bien au club. King Street assumera et prendra ses responsabilités. Moi, je te l'ai dit, à très court terme, le club va déposer le bilan. Je vois pas comment ils peuvent s'en sortir.
Christophe, est-ce que M. Longuepé n'a pas fait une déclaration hier
on en a parlé hier. Il dit, lui,
disant qu'il n'y a pas de problème.
Les actionnaires sont là et ils feront le chèque qu'il faut devant la DNCG.
Ils le feront peut-être dans quelques jours, mais on verra dans plusieurs mois. On verra dans plusieurs mois, tu verras.
Si on réglait les problèmes simplement en disant il n'y a pas de problème, c'est simple.
Non, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il va falloir se pencher sur ces soi-disant personnes qui viennent pour devenir propriétaire d'un club, qui passe devant une commission, un examen de passage, et où on s'aperçoit qu'en fait il y a des clopinettes. Donc à mon avis, où l'examen de passage il est pas assez sérieux.
Comment ça, t'en veux à M6 qui a vendu le club à King Street?
Un petit peu, t'as lâché un petit peu quand même l'affaire et t'as vendu et tu, j'en veux pas à M6 spécialement, mais il y a quelqu'un qui s'occupait, qui était la présidence.
C'est pour ça.
Il y a une présidence, il y a quelqu'un qui gère ça, il y a une commission qui gère ça, qui n'a pas fait pour moi son boulot parce qu'elle a donné les clés du camion à quelqu'un qui avait même pas son permis.
On attend quand même avec impatience parce qu'on est très curieux de, puisqu'il y a ce qu'on entend, ce qui est démenti, et on aimerait un petit peu en savoir plus, parce que les Girondins de Bordeaux, c'est pas quand même le petit club français,
ben oui, c'est
quand même, c'est les Girondins de Bordeaux, et il semblerait que la DNCG, ben, aura des difficultés pour nous expliquer un petit peu, nous, passionnés de football, la situation vraiment des Girondins de Bordeaux.
Alors
donc là aussi peut-être que c'est des conneries.
Juste dire aussi qu'on a essayé de joindre le président des Girondins de Bordeaux, Frédéric Longuepé. On lui a donné l'information par message et qu'il est pour l'instant injoignable. Ah. Et donc ça c'est important de.
Dugas, peut-être tu peux lui envoyer un message.
Je crois qu'il va répondre. À Dugas il va répondre.
Ça peut peut-être nous aider.
Bon. Ouais mais c'est tellement pas étonnant quand tu vois tout ce qui se passe. Encore on peut bien évidemment que tout peut pas se dire à la radio. On n'a pas le temps puis on a d'autres sujets à traiter. Mais t'imagines même pas ce qui se passe dans ce club, mon Jean-Louis. Donc mais non mais c'est au-delà. Moi, je pensais pas que les choses pouvaient se passer un jour comme ça, déjà dans une entreprise classique et dans un club de football, quoi. C'est surréaliste ce qui est en train de se passer pour que le maire demande comme ça ouvertement la tête du président. Ça, je crois que c'est du jamais vu non plus. Donc, je te promets que c'est très grave ce qui se passe dans ce club, parce qu'après, il va y avoir une réaction des joueurs dans pas longtemps, parce que je crois que ça se passait plutôt bien entre les joueurs et l'entraîneur. Il va y avoir une réaction très rapidement des joueurs qui apparemment sont verts de rage aussi. Donc, qui va prendre les choses en main? Qui va aller parler aux joueurs? Ça va pas être Massia, ça va pas être Longuepé, ça va pas être Thiodé. Alors si, ça va être un de ceux-là, mais avec quel pouvoir? Avec quel c'est des gens qu'on n'a même pas envie d'entendre, qu'on n'a même pas envie d'écouter, qu'on ne sent même pas concernés, qui n'ont aucun amour pour le club, qui ne sont pas identifiés club, qui n'ont rien à voir avec le scapulaire. Ils vont te parler quoi? De plaisir, d'amour de maillot, dire aux joueurs qu'il va falloir se défoncer pour le club. Mais eux, ils font tout contre le club déjà. Donc, tu as un problème, mais qui est profond, très profond dans ce club.
Mais il y a un nouveau logo quand même qui est joli.
Ah oui, il y a un très nouveau logo très important.
Il va falloir suivre aussi la suite pour Eduardo Massia, le directeur sportif des Girondins, qui lui aussi se poser des questions. Va falloir vite suivre ce dossier. Et tu parlais des joueurs, du gars, j'ai pu échanger avec un joueur ces dernières heures. Je peux te dire qu'ils sont tous très remontés, ils sont tous dépités, ils se posent des questions sur leur avenir. Certains réfléchissent même à appeler leur agent pour leur dire c'est bon, là il faut vraiment que je parte. Il y a vraiment vraiment beaucoup d'inquiétude dans l'effectif des Girondins.
Mohamed, tu reviens avec nous à 18h30 pour
le
parler
terme du mercato. Le c'est pas de partir, c'est de s'échapper.
Oui.
Très bien.
C'est exactement ça.
Passons sur City-Liverpool maintenant. C'est ce soir la passation de pouvoir, puisque Liverpool est officiellement champion d'Angleterre depuis quelques jours et que les deux équipes donc se retrouvent ce soir 21h15. Ce sera sur RMC avec Jeannot Rességuier qui est avec nous. Salut Jeannot.
Bonsoir tout le monde.
Alors, autour de ce match, on va débattre, notamment autour des deux entraîneurs. Dans la façon d'entraîner, Klopp a-t-il ringardisé Pep Guardiola ces dernières saisons? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Jeannot, leur confrontation tourne à l'avantage de l'Allemand.
Oui, après Mourinho et Pochettino, Klopp est le troisième manager que Pep Guardiola a affronté. 18 matchs, 7 victoires pour le Catalan, 2 matchs nuls, 9 victoires pour Klopp, qui est donc celui qui a le plus de victoires face à Pep Guardiola. La rivalité entre les deux remonte à l'époque de la Bundesliga, Guardiola au Bayern, Klopp à Dortmund. 8 victoires, là c'est à égalité. 4 pour Klopp, 4 pour Guardiola. Et en Angleterre, 10 victoires au total. Klopp 5, Guardiola 3, et il y a 2 matchs nuls. C'est au niveau de la première ligue notamment que Klopp s'est installé, avec une victoire lors de la saison 2016-2017 à domicile, pareil en 2017-2018, puis une victoire également à City en Ligue des Champions, où là il avait marqué déjà un petit peu son territoire, l'Allemand. Et puis la saison passée, match nul à Liverpool et victoire de City, et on s'était dit à ce moment-là que Guardiola avait réussi à trouver la clé face à Klopp. Entre temps, il y a eu la victoire en Ligue des Champions pour Liverpool et la Supercoupe UEFA, le titre de champion de Première Ligue cette saison. Et bien c'est la première fois que tout simplement Jürgen Klopp est champion face à Guardiola, entraîneur d'une équipe d'un même championnat. Pour finir, Guardiola est resté fidèle à ses principes de jeu, avec le ballon, avec la fluidité. Il a toujours aussi le sens du but. Meilleure attaque la saison passée. Il est au-dessus de Liverpool cette saison. Il reste encore cette rencontre et le match retour de ce soir. Klopp, lui, a évolué depuis Dortmund avec Liverpool. Plus de solidité défensive. 22 buts seulement encaissés la saison passée. Et puis surtout, un jeu un peu différent, oui, basé sur la contre-attaque.
Merci Jeannot. Alors, pendant longtemps, Guardiola était le modèle pour beaucoup d'entraîneurs. On a le sentiment que maintenant, c'est plus Klopp du gars. Quand la référence.
Oui, parce que oui, parce qu'il est dans. Il est, enfin, oui, c'est la référence actuelle. Après, dire qu'il a ringardisé Guardiola, faut pas en
être là.
Voilà, je sais que le football va très très vite, mais Guardiola trouvera les solutions. Il va chercher des solutions pour être à nouveau un petit peu plus compétitif. C'est vrai que cette année de cette saison de City, elle est ratée. Elle est ratée. Ils ont énormément de défaites. Ils ont dû peut-être un petit peu émousser aussi. Un petit peu émousser aussi les joueurs. Voilà, c'est difficile de se remettre
La saison en championnat est ratée pour l'instant.
Oui, la saison en championnat.
En championnat,
c'est vrai, effectivement, ils peuvent très bien gagner encore la Ligue des Champions.
Ils ont déjà gagné la Coupe de la Ligue. Ils peuvent gagner la Coupe et la Champions League.
Ouais, mais c'est vrai que dans le jeu, on trouve le jeu d'aujourd'hui de Klopp plus spectaculaire. On a plus envie de regarder ce jeu qui est basé sur un jeu de transition très rapide, de vitesse, d'agressivité. C'est un jeu qui est totalement différent de celui proposé par Guardiola. Maintenant, les deux sont plaisants à avoir joué. Il y en a un qui était peut-être mieux réglé cette année-là, cette saison, et peut-être que ça changera l'année prochaine. Mais je pense que Guardiola a encore des idées plein sa besace et est capable encore de gagner des choses, des titres, et moi j'ai aucun doute là-dessus. Donc ringardiser, je trouve que c'est un peu fort.
Ouais, c'est un petit peu fort. Moi, ce que j'ai juste à dire, c'est que Guardiola l'année dernière a gagné le championnat et qu'il montrait encore toutes ses qualités avec son équipe. Il a un gros problème cette année, c'est défensivement. C'est là où ça a pêché le plus, où il a eu Laporte qui a été blessé, obligé de mettre Fernandinho défenseur central, et n'a pas pu compter sur une bonne défense pour pouvoir.
Surtout qu'on parle de l'attaque de Liverpool, qui est flamboyante, mais je crois que Liverpool gagne ses titres surtout avec une défense de fer.
Même au milieu, tu vois, c'est assez costaud. Mais sincèrement, moi aussi, je suis plus Liverpool parce que c'est un jeu plus vertical, plus direct, qui me plaît plus. Mais tu peux pas nier le fait que s'il y en a un qui a changé le football ces 10 dernières années, c'est Guardiola, et il est toujours en train de le faire. On l'a vu ce qu'il a fait en recrutant, c'est Ederson, le gardien, où il a trouvé un moyen de contourner le pressing adverse avec un mec qui s'est joué au pied pour jouer devant vers ses trois attaquants. Je crois que c'est quelqu'un qui est phénoménal, qui est un génie. Le critiquer, ce serait aller un petit peu loin. Je pense qu'il va trouver la solution, mais c'est vachement intéressant d'avoir et Klopp et Guardiola, et je pense qu'il faut les encenser les deux.
Bah bien sûr, c'est pour ça qu'on a ce genre de débats qui sont passionnants, hein, entre les deux entraîneurs, qui sont peut-être les deux meilleurs au monde. Comment tu vois les choses?
Si ce ne sont pas les deux meilleurs, ça fait partie des meilleurs, ça c'est sûr. Non, le problème, si on peut parler d'un problème, c'est la différence dans le comportement. Il y a aussi une certaine mode. Et quand on parle depuis des années que bon, un entraîneur est entraînant, c'est sûr que quand tu vois Klopp, que tu es joueur ou ancien joueur comme je le suis, ça m'aurait fait plaisir d'être entraîné par Klopp. Mais ça m'aurait fait plaisir d'être entraîné par Guardiola, qui effectivement a peut-être négligé aussi certains postes que n'a pas négligé Klopp, le poste d'arrière central, le poste de gardien de but. Quand on a vu Liverpool mettre 80 millions d'euros pour un gardien, il y a toujours dans la phrase pour, tu vois, donc ils ont mis 80 millions, oui, effectivement, pour le poste de gardien qui peut-être fait la différence à certains moments, plus que ce qu'on pense. D'ailleurs,
les deux latéraux,
là aussi où c'est quand même la force de Klopp, c'est de faire progresser tous ces joueurs aussi.
Absolument,
je voulais y venir.
On a eu aussi Arsène Wenger dernièrement qu'on parlait que peut-être dans sa. Ces 20 années à Arsenal, le poste de gardien de but avait été négligé quelque part. Et Dieu sait que c'est un poste important. Alors, effectivement, quand on regarde ce que tu viens de dire, c'est-à-dire
faire progresser les joueurs. Voilà. Quand on prend les 11 et tous, ils sont.
Quand on regarde le parcours aussi, tu te rends compte que on regarde jouer cette équipe de Liverpool, on se dit, c'est pratiquement impossible à battre. Mais on regarde jouer Manchester City et la saison dernière, vous n'allez pas me dire qu'on peut faire la différence avec toutes les stats. Et je sais que Jeannot nous en a donné des précises. Quand je me rappelle simplement la saison dernière, de la façon dont Guardiola, puisque maintenant Guardiola il passe avant Manchester City, alors que pour moi les joueurs sont entraînés par le manager entraîneur Guardiola, et quand tu vois de quelle façon ils sont éliminés par Tottenham, tu as envie de porter plainte au football, oui. Tu vois, et je pense que tu risques de gagner. Ensuite, ben c'est quand même Klopp qui cette année fait un parcours extraordinaire avec ce titre qui n'est plus possible pour Liverpool depuis une trentaine d'années, mais c'est bien le Liverpool de Klopp qui est éliminé par l'Atlético de Madrid et qui ne va pas jouer la Champions League, que va jouer Guardiola en ayant battu notre Zizou imbattable 2-1
Il y a un match retour.
Il y a un match retour, oui. Il y a un match retour. Ça me fait plaisir que tu le dises. Mais excusez-moi que pour le match retour, si tu me demandes un pronostic avec un score de 2-1 au match aller, et je crois que ça sera très compliqué pour le Real. Alors, mais on regardera ça d'après.
Dans ce débat Klopp contre Guardiola, on va donner la parole à Romain qui attend au 32-16. Salut Romain, bienvenue dans Team Duga.
Bonjour à tous, merci de me donner la parole.
Salut Romain.
Salut
Romain.
Salut.
Avec plaisir, bienvenue.
Ouais, merci lui à Duga pour ces 4 années. C'est vrai que je vous écoute tous les soirs. C'est vrai que c'est un vrai plaisir de vous entendre. Vous êtes bien entouré. On passe un très bon moment.
Merci Romain.
Donc voilà, et juste pour revenir sur le débat, moi je trouve que ce qu'a prouvé Klopp sur ces dernières années, que ce soit à Dortmund, où il a quand même fait une finale, il a joué le titre contre le Bayern, après quand il est venu à Liverpool, il fait une finale, il l'a gagné l'année dernière, je le trouve supérieur à Guardiola. Quand on compare le parcours, ce que disait Roland en Ligue des Champions de Guardiola, à Munich, où il n'arrive pas à passer le stade des demi-finales, où il s'arrête en demi-finale.
Oui, donc, attends, excusez-moi. Il s'arrête en demi-finale. Dans notre pays chéri, d'y aller en demi-finale, c'est un exploit extraordinaire. Oui. Lui qui arrête chaque année.
Il dépense beaucoup.
Si Guardiola fait ce qu'il a fait à City depuis qu'il est avec City, bon, c'est vrai que l'année dernière, il se fait éliminer, je suis d'accord avec toi, Roland, sur un fait de jeu, je suis d'accord. Mais je veux dire, il n'a pas non plus un avec City en Coupe d'Europe. Je pense qu'il ferait le même parcours à Paris avec les moyens qu'il a. Je pense que tout le monde lui tomberait dessus. Ou peut-être on n'oserait pas parce que c'est Guardiola.
Quel parcours il fait?
Bah, il se fait éliminer assez tôt en Ligue des Champions à chaque fois,
à part cette année. Bon, cette année, il va sûrement passer contre le Real, je pense. Mais après, bon, après, ça va être particulier cette année. Mais les autres années, on ne peut pas dire qu'il a fait un parcours extraordinaire. Je crois que l'année où ils sont éliminés par Monaco, je crois que c'est Guardiola.
C'est en quart.
Jean-Louis,
c'est Guardiola.
Ils gagnent 5-3 et après, sur les deux matchs, ils prennent. Presque plus de 6 buts. Je veux dire, ça serait Guardiola, s'il entraînerait à Paris, j'espère qu'on lui dirait que c'est catastrophique, quoi.
Et Jean-Louis, est-ce que tu sais.
Non, ça, c'est Romain.
Et c'est Romain. Non, mais je te pose une question parce que toi, t'es notre spécialiste et expert et que tu sais tout sur tout. combien de millions a dépensé Klopp depuis qu'il est à Liverpool et combien Guardiola l'a dépensé?
Guardiola a dépensé plus.
Ouais, c'est ça, parce qu'à un moment donné, je pense qu'on aurait donné à Roland. Courbis, on aurait donné à Roland Courbis 300 ou 400 millions chaque année pour dépenser, et trouver des joueurs. Je pense qu'il aurait fait aussi sans doute une demi-finale de Champions League. Tu vois, c'est ça que je veux dire.
J'espère que sur les 400, j'allais miser soit sur le match face à terre, soit
sur le set.
J'ai peur que sur les 400, tous ne partent pas dans l'achat de joueurs. Mais bon. Et juste pour le parcours de City, ils n'ont pas franchi les quarts de finale de Ligue des Champions depuis 2016, où ils avaient fait demi-finale contre le Real.
Ouais.
Mais voilà, pour Guardiola en Ligue des Champions, ça va pas plus loin que l'écart. Ça va dans le sens de ce que nous disait Romain, que l'on remercie.
L'année dernière, elles sont pas en demi?
Non. Et non, Tottenham, c'est en quart.
Ah bon?
De demi, c'est l'Ajax pour Tottenham.
Ah, exact.
Et voilà. Et voilà, et là du gars, hein. T'as vu ça?
Ah, ouais, bravo. Ouais, t'es au-dessus, mon Jean-Louis. Ouais, c'est
ça. Non, mais on a l'impression que Klopp réussit.
En même temps, t'es payé pour ça, fais pas le malin. Hein.
Ouais. Non, je sais pas.
On a l'impression que Klopp, quand même, réussit avec beaucoup moins de stars. Quand on regarde tout son effectif et qu'on regarde le banc qu'il a par rapport à Manchester City, on a l'impression quand même que l'effectif est moins talentueux. Alors, sur le papier que celui de Guardiola.
Jimmy Brown, notre producteur.
Oui, qui est aussi une.
Qui est une sommité. Bien meilleur qu'Antoine Varnier. Mais
je n'oserais pas dire, mais pas loin.
Donc, à la louche, il me dit c'est 600 millions dépensés par Guardiola, 400 pour Klopp à Liverpool.
Voilà, voilà. Vous continuez à me contrarier que vous ne parlez uniquement que des transferts de club à club. Les salaires, on s'en fout.
Moi, je réponds à Franck Leboeuf.
Mais d'accord, j'y réponds encore plus. J'y réponds.
Bon, bah, il va calculer avec
peut-être
les salaires.
Ça en rajoute encore plus, mais peut-être ça en rajoute encore moins.
On remercie peut-être. Romain au 32-16. Le match ce soir, 21h15 sur RMC Sport, à la télé, sur RMC, à la radio. Donc, ce match gala, puisqu'il y a de l'enjeu, surtout pour City, qui veut assurer sa place en Ligue des Champions la saison prochaine. Dans un instant, Nice est plus que jamais le modèle à suivre pour nos clubs de Ligue 1, que ce soit au niveau du recrutement, de la politique sportive, de la communication. 32-16 pour en parler, à tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Tim Dugas,
Jean-Louis Tour,
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 18h32, Tim Dugas continue avec Jean-Louis Tour, Franck Leboeuf et Roland Courbis.
Exactement, il y aura également le journal moyen dans Tim Dugas à 18h45 avec Adrien Aiguin. Salut Adrien.
Bonsoir les copains, ça fait Bonsoir, 20 ans. Salut, Dugas et Francky.
Aujourd'hui,
le 2 juillet 2020. 2000. Il y a 20 ans, le 2 juillet.
Je
regardais la date.
Les carbos.
Nous sommes en 2020. Il y a 20 ans, vous gagnez l'euro.
Tu sais que moi, je me rappelais pas la date de la finale.
C'est vrai. Tu l'as vu cette finale?
Hein? Tu l'as vu cette finale?
Ouais, là, j'ai discuté avec Manu et Elisa sur le banc, mais
totalement carbo.
Alors, vous gagnez l'euro, on va revivre le match.
Cadrin, il a bu avant.
Non, je suis nickel. On va revivre le match. Et moi, ce que j'aime bien, c'est aussi la réaction d'après match.
Ne te moque pas des alcooliques, s'il te plaît.
La réaction d'après match sur TF1, notamment Franck Leboeuf au micro de Pascal Pro, et c'est très bon.
Ah, j'imagine, oui. Bah, on aura ça tout à l'heure. Merci Adrien.
Déjà le jeune Francky, nickel, ça va.
Mohamed Bouafsi est de retour avec nous. On va parler de Nice, mais juste avant quand même, Dugas, sache que tu ne peux plus candidater pour le poste de Head of Business de l'Olympique de Marseille.
Ah, ils ont trouvé.
C'est fini.
Ça y est, ils ont trouvé. Il s'appelle Hugues Ouvrard.
Non, mais on va arrêter de dire Head of Business quand même.
Pourquoi?
Parce que c'est sur le communiqué, c'est directeur délégué, directeur général délégué.
Mais pas sur LinkedIn.
Non, sur LinkedIn, c'est resté Head of Business.
Ah bah, alors, moi, je reste sur Head of Business.
Je suis sur LinkedIn.
LinkedIn.
Ouais. Qu'est-ce que ça fait?
Bah non, mais je sais pas, LinkedIn. C'est comme Tottenham, LinkedIn.
D'accord.
Voilà, okay. Ouais, ouais. On parle anglais ou on parle pas anglais? Vous voulez parler anglais?
Je savais pas qu'il y a le Wall Street Institute à table.
Ouais. Allez, vas-y, enchaîne.
Wall Street Institute.
C'est gênant.
Mais on est habitué.
C'est gênant parce que vous savez pas parler anglais, mais c'est pas grave.
On peut parler de lui, Mohamed. Donc il était chez Xbox.
Oui, chez Xbox.
Xbox.
Arrête, t'as l'air surpris. Xbox, tu connais, t'es très jeune encore. C'était Roland qui me parlait comme ça des Xbox.
Mais je
connais. Non, il est passé à l'OM il y a quelques années parce qu'il avait participé à la création d'OMTV. Il est passé par SFR, il est passé par Xbox, par Canal+. Et donc, il arrive à l'Olympique de Marseille en tant que directeur général délégué. Il ne touchera pas à tout l'aspect sportif et l'aspect footballistique. Et voilà. Et donc, il va se lancer dans sa mission dans les prochaines heures et ça démarre. Après, les réseaux sociaux sont très durs.
Oui, alors il a juste un problème, c'est qu'il n'a pas nettoyé son compte Twitter.
Ouais, il fallait nettoyer son compte Twitter avant de démarrer son aventure à l'Olympique de Marseille. Il y a quelques tweets du gars où il explique qu'il aime bien le PSG. Et ça a été retrouvé. Magnifique. Mais faut dire aussi qu'il n'y a pas besoin d'être supporter d'un club quand on est dans une fonction de ce genre. Si c'était le directeur.
C'est même mieux maintenant. Hein. Maintenant, de toute façon, c'est bien mieux parce que tout le monde est comme ça. Donc autant être supporter d'une autre équipe pour travailler dans un club.
Ça aussi, Romain de Bordeaux, c'est
pour ça que je dis ça. Ouais, mais c'est pour ça. Ils sont tous supporters d'un autre club que les Girondins de Bordeaux et pourtant ils y bossent. Ah ouais, non mais c'est fou.
Non mais Languépé, supporter de quelle équipe?
Non mais ce que je voulais dire du gars, il a travaillé au PSG, mais ce que je veux dire c'est du gars, je connais des supporters de l'OM qui bossent au PSG par exemple. Voilà, parce que j'ai pas envie de leur faire des problèmes, mais
bien sûr. Non, mais je suis pas surpris, hein, Mohamed. Ouais. Je suis pas surpris.
C'est vrai.
C'est la nouvelle tendance.
Football va pas bien.
On connaît même des journalistes. Enfin bon, bref. Alors on enchaîne sur Nice, donc puisque depuis longtemps du gars tu nous parle de ce qui se passe à Nice, de la politique sportive du club, quoi.
Enchaîne.
Que c'est un modèle pour toi, ce qu'accomplissent Jean-Pierre Rivère, Julien Fournier, et ce qui se passe depuis quelques jours peuvent te conforter là-dedans, notamment sur le mercato. Mohamed,
oui.
5 recrues déjà à Nice. Hein.
Oui, et des recrues assez importantes. On peut citer l'international français Morgan Schneiderlin, qui arrive du côté de Nice pour 2 millions d'euros seulement. Donc c'est une belle opération. Il voulait absolument revenir en France et donc il a su trouver ce projet niçois et surtout l'envie de jouer le top et le haut du tableau en France. Donc ça s'est bien passé avec les dirigeants niçois. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que Julien Fournier et Jean-Pierre Hivert étaient sur ce dossier. On peut aussi évoquer Hassan Camara. Il avait plusieurs offres. Tu sais, Dugas, c'est le joueur du Stade de Reims. Il était courtisé par plusieurs bons clubs anglais, pas des très gros clubs, mais plusieurs bons clubs anglais. Il a préféré rester en France. Donc ça travaille bien à Nice. On peut aussi parler d'un espoir qui arrive en provenance du Bayern Munich, qui n'avait pas signé son contrat pro avec le Bayern Munich. Il a préféré signer son contrat pro avec le GC Nice. Et je peux te dire qu'ils étaient assez agacés de le perdre au Bayern Munich, mais le joueur, lui, voulait jouer. Tout de suite joué et donc il s'est dit je vais plutôt trouver ma place à Nice plutôt qu'au Bayern. Donc ça travaille plutôt bien. On peut aussi évoquer l'envie de réaliser d'autres coups. On peut parler
sur les 5 recrues, on peut parler d'un tarif de combien là, parce que 2 millions j'étais derrière, les autres ça en a combien pour avoir recruté 5 joueurs, combien d'argent?
Je vais vérifier tout de suite un seul transfert, celui de Camara, parce que j'ai un petit doute, mais en tout cas c'est sur des enveloppes, c'est des enveloppes qui sont assez on veut faire des opérations à petit profit, c'est pas des gros transferts, mais tu vois.
Schneiderlin, 2 millions, ouais, le garçon qui a 30 ans, avec le passif qu'il a, la carrière qu'il a.
Camara, c'est 4, voilà. Donc ouais. C'est un deal qui est assez intéressant. Le seul transfert qui est un peu cher, c'est Guiri, parce que là aussi, on peut parler de prospect. Il arrive depuis Lyon pour 7 millions d'euros. Ça, c'est un joueur qui n'a pas beaucoup évolué en Ligue 1, donc ça, c'est assez cher. Bambou, Rotsheim Bambou, il arrive depuis l'Atlético Paranaense. Lui, c'est un gros espoir aussi du football brésilien. Il arrive pour 7 millions aussi d'euros. Ça travaille bien, quoi.
En fait, ce qui est beau du gars, c'est d'arriver à faire des coups alors qu'on sait qu'ils ont les moyens, Nice, maintenant.
Bah, c'est là que c'est encore plus fort. Il pourrait dépenser plus pour faire des gros coups, pour faire du buzz. Et puis pas du tout. Ça continue à travailler de la même façon, de la même manière. C'est pour ça que... On est toujours en train de débattre ou de parler de moyens. C'est pas un problème de moyens, c'est un problème de projet. Quel projet tu veux mettre en place? Ça sert à rien de vouloir. Regarde l'Olympique de Marseille, ils ont dépassé 250 ou 300 millions d'euros depuis que Macourt est arrivé. Pour quel résultat? Il n'est pas là le sujet. Le sujet, il n'est pas de mettre de l'argent. Le sujet, il est de bien travailler et de travailler d'une certaine manière. Voilà. Après, des fois ça va fonctionner, des fois ça va moins bien fonctionner, mais au moins tu as une stratégie. Tu te tiens à cette stratégie et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est passionnant dans la façon de travailler. C'est pas parce que demain matin tu vas gagner au loto que tu vas faire n'importe quoi, tu vas exploser tous les budgets avec malheureusement aucune garantie que les choses fonctionneront mieux. C'est rarement en adéquation. C'est pas plus tu vas mettre d'argent, plus tu vas gagner de l'argent. C'est pas aussi, c'est plus tu vas gagner de matchs. C'est pas aussi simple que ça. Et il faut sortir de cette logique-là parce que ça n'est pas une logique de foot sportive. Alors, ou alors tu mets carrément 500 millions, ce que Nice ne pourra pas faire. Et là, c'est vrai, tu passes dans une autre espèce de catégorie où tu peux recruter des joueurs à 150, à 200 millions. Mais après, quand t'as des joueurs à 7, 8 millions et des joueurs qui vont vouloir 20, 25 que tu vas surpayer qui en vérité valent peut-être qu'un tiers de ce prix-là, mais parce que tu as un peu d'argent, tu vas être obligé de les surpayer. Ils ne surpayent pas des joueurs et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Les joueurs, malgré tout, il y a une cote des joueurs. Il faut savoir, alors elle est plus ou moins, elle bouge plus ou moins en fonction des moments, en fonction des périodes, en fonction des crises, mais les joueurs ont toujours une cote. Et heureusement, arrêtons de partir sur des sommes, sur des joueurs qui n'en valent pas la moitié, quoi.
Soyons conscients aussi que du côté de Nice, tout semble réuni pour justement réussir. Tu as la compétence aux deux postes importants du club avec Julien Fournier et Jean-Pierre Hivert, qui sont quand même compétents et expérimentés. Tu te rends compte que Julien Fournier était à l'Olympique de Marseille quand on y était nous, du gars. Donc il était toujours aussi discret, toujours aussi calme et toujours aussi efficace. Et ensuite, là, tu as maintenant les possibilités financières pour mettre en place et continuer à être performant dans la formation. Tu sais très bien que il y a certains joueurs qui regardent avec leur femme, sur un plan géographique où se trouve le futur club de leur mari. Quand tu expliques que c'est du côté de Nice, on peut pas dire que c'est un handicap, tu vois. Et donc, après, la possibilité de fixer comme objectif de terminer tous les ans dans les 6 premiers et pas obligatoirement à la 6e place, ça peut être réussi, oui, de façon sympa, dans un endroit sympa du côté de Nice.
Nouveau centre d'entraînement.
Ouais, non, mais il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Et
le stade est magnifique.
Exactement. Schneiderlin qui revient en France, qui a la possibilité d'avoir une deuxième chance, ça me rappelle Ben Arfa, ça me rappelle Balotelli. Ça n'a pas été, il me semble, des échecs. S'il y a eu un moment où Ben Arfa a brillé, c'était quand même à Nice. Balotelli a quand même fait le boulot, même si c'était plus à domicile qu'à l'extérieur. Et Schneiderlin a le mental et l'expérience pour apporter énormément de choses. Et je trouve ça très intéressant dans ce que, par rapport à ce que disait Christophe, c'est-à-dire que tu cherches des joueurs qui peuvent t'apporter sur un an ou deux.
Oui, et puis le recrutement, tu vois tout de suite, après on peut se tromper dans le recrutement en ce qui concerne la complémentarité, l'adaptation des joueurs. Mais là, il semblerait que vu de l'extérieur, nous passionnés de football, tu as un jeune arrière central un peu inexpérimenté qui arrive à côté d'un qui est beaucoup expérimenté.
Dante,
tu as Schneiderlin qui va être au milieu de tous ces jeunes dans un poste en plein cœur de l'équipe, quelle que soit l'organisation. Et c'est vrai que c'est une bonne idée. Le petit Lyonnais, il doit être regardé du côté de Lyon avec beaucoup d'inquiétude. Du sens, tu vois pas qu'il explose celui-là à Nice alors qu'on l'avait chez nous. Il y a déjà, je me rappelle plus celui qui est parti à Monaco, à une vingtaine de...
Goebbels.
Donc ça fait du côté de la Côte d'Azur, il y a deux jeunes Lyonnais formés à Lyon dans ce centre de formation performant qui sont quand même, maintenant plus à Lyon, ce qui est peut-être Roland, regrettable, mais on ne peut pas garder tout le monde.
Roland Dugas, ça va te plaire, je sais que vous aimez les chiffres. On parle des salaires aussi, à Nice, il y a une vraie réflexion sur les salaires. Quand on est un joueur qui est un joueur en devenir, hors de question d'avoir un très gros salaire, tout l'effectif ne gagne pas plus de 100 000 euros, hormis les cadres, vraiment, les joueurs qui sont arrivés comme des, j'ai pas envie de dire des stars, mais des joueurs confirmés. On peut citer Ben Arfa, Balotelli. Donc là, ça sera par exemple le cas de Schneiderlin, mais on fait vraiment attention à avoir un équilibre financier dans tous les salaires.
Quel bonheur d'entendre ça. Non, mais comme quoi c'est possible,
Je le sais parce que je parle à beaucoup d'agents. Julien Fournier, il est toujours dans les avions, il est toujours en train de voyager, comme Luis Campos. D'ailleurs, on peut aussi citer Luis Campos. Mais quand on va trouver Bambou à l'Atlético Paranaense, c'est vraiment qu'on a une vraie réflexion. Et d'ailleurs, ils ont pas une équipe de 50 recruteurs, hein. Le GC Nice, ils bossent vraiment avec des prospects. Et après, il y a un équilibre des forces. Et c'est le cas notamment entre Jean-Pierre Hivert et Julien Fournier.
Bosser avec des prospects. Très bien. Merci Mohamed.
T'étais un prospect, toi, il y a quelques années. Maintenant, ouais, T'es confirmé.
Tu veux, ouais. Dans un instant, le journal moyen. Adrien Aigouin, l'Euro 2000, etc. Tout de suite. Allez, quelques messages sur les réseaux
sociaux. Quelques prospects. Allez.
Ah, les prospects, moi je découvre ça là. C'est jeunes prometteurs quoi. Ouais,
c'est quoi ça. Ces mots anglais là, vous sortez depuis tout à l'heure là,
c'est LinkedIn, c'est un réseau social.
Oui, non, mais ça, je sais. C'est le seul réseau social où on peut trouver M. Dugas, il a dit d'ailleurs.
Oui, exactement.
C'est le seul.
T'as ouvert ton compte LinkedIn en ce moment, Dugas ?
Profitez-en, il n'y a plus que dans 4 jours, pas jeudi prochain, il n'y aura plus rien, je vous le dis de suite.
Comment ça ?
Bon, c'est bon.
Il nous répondra qu'on appellera.
Ouais, à vous. Non, mais toi, t'as mon numéro de portable. Toi,
oui,
mais
tu bien me contactes sûr. Pas sur LinkedIn. Sur LinkedIn, ce sera fini aussi.
Oh non, c'est bon. Allez, les polémiques, là, ma chaîne, tout ça, c'est bon. Les rideaux, virer tout ça. C'est bon, merci. Oh là là.
Ah,
et oui, bon. Écoute.
Ouais.
Ça te manquera.
Ouais. Et dire qu'il y en a qui pensent que je vais m'ennuyer, c'est fou. C'est fou.
Bon, vous pouvez quand même nous envoyer des messages sur le hashtag RMC Live, sur Direct Studio, ou nous appeler directement au 3216, comme ça il y a un rapport direct au téléphone. C'est génial, à tout de suite.
RMC, 18h20.
Tim Dugas,
Jean-Louis Tour,
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 18h48, Tim Dugas continue avec Franck Leboeuf, avec Roland Courbis, avec Jean-Louis Tour. Les amis, à partir de 19h, nous allons parler de Lille.
Alors on va plutôt parler de Grégory Coupé.
Excuse-moi,
le programme, t'inquiète pas.
Ouais.
Parce que Grégory Coupé a réglé ses comptes avec l'Olympique Lyonnais, lui qui est désormais entraîneur des gardiens de Dijon. On se demandera si l'OL s'est mal comporté avec lui, 32-16. Pour en parler, on aura les infos des deux.
Il a manqué de respect.
En plus, oui, exactement. Je veux plus intituler les débats comme ça maintenant, ça part trop dans tous les sens. Le journal moyen tout de suite, Adrien.
À la une du journal moyen de Tim Dugas, spécial 2000. Donc aujourd'hui sur RMC, il y a 20 ans, Franck Leboeuf avait déjà le sens de la formule, ce qu'on appelle aujourd'hui une punchline. Il y a 20 ans, Zidane balançait déjà en conférence de presse après les matchs. Il envoyait du bois à mon Zizou. Et puis, question pour spécial il y a 20 ans, question pour Euro 2000. Je pense que Jean-Louis Tour va vous humilier.
Non, c'est pas.
Tu vas leur manquer de respect, Jean-Louis.
Non, je pense pas.
C'est parfois les compétitions auxquelles on participe. C'était Dugas en 2002 et toi en 2002 là sur la Coupe du Monde 2002, nul.
Ouais.
Franck et Dugas.
En 2000,
moi, j'étais pas
du tout participé.
Celle-là, ils n'ont pas joué non plus.
J'étais pas participé
en 2000.
Non.
Vous écoutez RMC, c'est le 347e journal moyen de l'histoire de Tim Dugas.
en direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Tim Duga.
Adrien Aigouin.
On se fait plaisir, parce qu'il faut se faire plaisir, ça fait du bien. Nous sommes le 2 juillet 2000, il y a 20 ans, 20 ans tout pile, 21,4 millions de Français avaient les yeux rivés sur Duga, sur Francky, sur tous leurs copains.
C'est génial ce programme.
Ah, écoutez, Adil Ramzy.
Il est différent de nous tous.
C'est moi le pain.
C'est moi, oui, le pain.
Il fait des blagues, il est énorme ce Francky.
Séquence nostalgie. Séquence histoire pour les plus jeunes qui nous écoutent. Nous sommes le 2 juillet 2000 à Rotterdam. C'est la finale de l'Euro. France-Italie, 55e minute. C'est le cauchemar. Nous sommes sur TF1, comme tous les Français et les Italiens ont le ballon. C'est le cauchemar.
Albertini va remettre dans le paquet. Non, il a préféré Totti.
Pas de chaude.
La talonnade.
Et Soto. Et but.
But de Del Vecchio.
Et but Del Vecchio à la reprise de ce centre. Del Vecchio tout seul.
But de Del Vecchio. C'est long. C'est la galère. 58e minute. Roger Lemaire prend des décisions et décide de sortir du gars et de ne pas faire entrer Franck Leboeuf. Et là, tout bascule. Sur le banc, les Italiens font déjà la fête. Du gars a envie de leur mettre des coups de tête. Je te connais par cœur, du gars. Je sais que c'est vrai. C'est le temps additionnel. 94e minute. Barthez relance long. Très, très long.
Barthez, 48 minutes, c'est la dernière. Allez, allez.
Allez.
Trezeguet. Wiltor. Oh, et but. Oh, à la dernière seconde. Wiltor qui égalise.
À la dernière seconde. Encore Jean-Michel Larquet, Thierry Roland. C'était quand même la grande classe. But de Wiltor, prolongation. C'est la règle du but en or. L'équipe qui marque est championne d'Europe, 103e minute. Pires sur le côté gauche. Il peut faire la passe à Zidane, mais folie, il ne fait pas la passe à Zidane. Il décide de déborder sur son côté gauche.
Ils ont pris l'initiative parce que la fatigue a commencé à se faire sentir côté transalpin. Pires, oui, il est passé. Centre en retrait. Et but. Et but, et but, Trezeguet.
21,4 millions de Français crient comme Jean-Michel Larquet.
Ça fait des frissons. Extraordinaire.
Un but de Trezeguet. Ouais. Champion du monde en 98 et donc maintenant champion d'Europe, Euro 2000. Et puis moi, je me suis replongé dans les réactions après le match. Parce que c'est ça qui est le plus intéressant. TF1 garde l'antenne pendant plus d'une heure, 1h15 d'antenne. Une sorte d'after géant sur TF1. Les invités défilent sur le plateau de Pascal Pro. Franck Leboeuf, tu arrives en plateau et tu rends hommage. Là, c'est très sérieux et c'est mignon à Laurent Blanc, ton concurrent, ton rival, un peu coupable sur le but de l'Italie.
J'ai discuté un petit peu avec Laurent qui me disait qu'il avait peur de mettre la tête et que, parce qu'il pensait que s'il mettait la tête, il mettrait contre son camp.
Donc
c'est toujours une position délicate pour un défenseur. Mais bon, à la fin, tout se finit bien. Moi, j'ai été voir Lolo et j'ai dit qu'il n'y avait pas plus belle fin internationale que celle-ci. Et donc, moi, je suis très, très content pour lui et pour toute l'équipe de France.
C'est mignon.
Et on en met une petite à Laurent Blanc quand même au passage.
Non,
je suis pas aussi tordu que toi. J'essaye au contraire d'expliquer pourquoi il met pas la tête.
Voilà. Et c'est ce qu'il t'a raconté en plus.
Oui, c'est vrai.
Et puis alors, normalement, et c'est là qu'on voit que Francky est déjà prêt pour la scène, pour la radio, pour le show, pour l'entertainment. Parce que normalement, Pascal Pro tente de le remercier. Monsieur, il faut.
Il veut pas partir.
Il y a 21 autres joueurs qui doivent venir. Mais Franck dit non, parce que j'avais préparé une petite punchline pour terminer l'intervention. Là, c'est très bon, Francky.
Moi, je suis très, très content pour lui et pour toute l'équipe de France. Et puis, je tenais à dire que nous avions Dieu Jacquet depuis 98. Et maintenant, on a Saint-Pierre le maire qui nous ouvre les portes aussi du paradis. Donc, c'est parfait.
Magnifique, Francky, la punchline.
Je vais y aller.
Dramatique.
C'est là qu'on. J'étais meilleur en 2000 que maintenant.
Si Pesanti avait entendu ça, il t'aurait jamais engagé. Je te dis de suite.
Non, mais vous êtes les mêmes 20 ans après.
C'est incroyable. Et ce qui est bien, c'est que Pascal Pro, il fait comme Jean-Louis Tour aujourd'hui. Il a fait Ouais. Faut enchaîner là, vite. Il y a la
les gens ne changent pas.
C'est incroyable. Hein.
Il y en a un qui n'a pas changé, c'est Zinedine Zidane. Comme d'habitude, il arrive en plateau et il balance parce que c'est un dingue, Zizou. Et il dit des choses que personne n'en dit après le match.
C'est pas bon. Oui. Ça, on savait très bien qu'ils allaient nous créer des problèmes, des difficultés. On a eu un match difficile et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu la 93e minute, ce but de Sylvain qui remet tout le match en jeu. Je crois que bon, il n'y avait pas créé au scandale.
Je crois que j'en ai chialé quand j'entends ça, le mec, il a du courage.
Mais qu'est-ce que tu veux rajouter derrière? C'est exceptionnel.
Les gens ne changent pas.
Et d'ailleurs, tous les joueurs passent.
Il a changé, il est meilleur maintenant.
Franchement, vous étiez 22 à l'époque, hein, c'était pas encore 23.
Tu as raison.
Je pense qu'il y a 17-18 joueurs qui passent, pas de Christophe Dugarry au micro de Pascal Pro. Que faisais-tu, Duga, après le match?
Énervé d'avoir été remplacé.
Non. Tu l'as fait déjà
oui, du gars avec tes copains. Ouais, non, bah, j'étais content. Je suis content d'avoir joué déjà.
Oui.
Non, je t'ai pas vénère.
On termine avec une question pour.
Oh là,
bien allez, sûr, avec parti, le grand combat. Question pour donc l'Euro 2000.
La coach, ouais. Il faut trouver les réponses.
Coach,
je me permets de te
réveiller. Non, mais tu devais être consultant, coach, oui. Pour l'Euro 2000. Pour une chaîne, non, pour une radio. Bah, toutes les compétitions, j'ai vu coach le consultant.
Mais ici,
ben voilà.
En 2000 ?
En 2000, non. Non, pour Canal, non. Pour non. Télévision.
Non. Ni pour Canal non plus.
Ouais, peut-être, ah. Peut-être, ouais, vite fait. Ouais. Qui termine cette année-là de l'Euro 2000 ? Troisième.
Il n'y a pas de troisième.
Il n'y a pas de troisième à l'euro.
Bravo,
il n'y a pas de match pour la troisième place.
C'est pour ça qu'on n'a pas répondu.
Je veux, un peu plus compliqué, les deux meilleurs buteurs de l'Euro 2000.
Kluivert.
Ouais. Patrick Kluivert.
Henri.
Pays-Bas.
Non, Henri a 4 buts, je crois.
N'oubliez pas qu'il y avait une sélection yougoslave.
Oh, Milosevic.
Oh, Savo Milosevic.
Parce que je l'ai vu il y a deux jours. Hein. J'avoue que je triche pas.
Bonne réponse de Franck Leboeuf.
Ah, bravo, Francky.
Espagne-France en quart de finale. Quel joueur espagnol est buteur sur penalty? Eh ben non.
Et il le rate.
Raoul, il le rate.
Hierro.
Non.
El Guerra. Ah non.
Du gars, Francky, vous avez joué ces matchs? Ah, ça commence par un M.
Mounitis.
Non.
Mounitis.
Non. Mendieta.
Mendieta
qui marque le pénalty face à Barthez. Le deuxième pénalty, c'est Raoul et il le rate, il tire à côté. Et puis là, c'est de la rapidité sur 7 euros, tout simplement. Qui est sélectionneur de l'Italie?
Capello.
Capello, ouais.
Mais non, pas du tout.
Lippi?
Pas du tout.
Zoff?
Sacchi?
Dino Zoff. Ouais. Bonne réponse de Jean-Louis Tour. Sélectionneur de l'Italie.
Dino Zoff, je me rappelais même
plus. Tu pourrais savoir.
Je me rappelais même plus qu'il avait été sélectionneur.
Il est 98-2000, je crois.
Voilà.
Très bien, merci Adrien.
D'accord.
Maldini en 98, le sélectionneur.
Ah oui, oui.
C'est ça, pardon.
Je dirais que.
Bravo. Bravo, France, les gars. Non, mais bravo à vous surtout.
Je dirais que France 98 avait son dieu Jacquet.
Oui, et puis Saint-Pierre le Romain.
Mon téléphone dans ta gueule, tu vas le recevoir ou quoi?
Il a ouvert les portes du paradis.
Ouais, mais je trouve ça pas si mal. J'ai fait pire.
Ah oui, c'est ça le problème.
Bravo à vous en tout cas, les gars, parce que c'est pas mal quand même.
C'est pas mal du tout. Ça
n'a pas
été refait, en tout cas.
Merci, Adrien. Ça n'a pas été refait, oui et non.
L'Espagne a été fait avant. En France, on attend.
Ah oui,
jeunes,
oui, oui. Ah oui, en France.
On attend l'année prochaine, on est avec eux, là.
Bien sûr.
Rébus répétita.
Dans un instant, Grégory Coupé n'est pas content de son départ de Lyon. Il l'a expliqué aujourd'hui. On y revient dans Team Dugas tout de suite.
RMC. 18h-20h. Team Dugas.